Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, 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 bienvenue à tous et toutes dans ce Canu Info du jeudi 10 janvier 2019. Je suis en compagnie de Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Nous espérons que vous allez bien pour ce nouveau jeudi. Nous prenons la place donc pour une petite heure. Alors, on va vous parler de plein de choses. Ce soir, Laurent reviendra sur Monsieur. Je ne sais pas si vous voulez dire du monsieur Barbarin. Hein. En tout cas, on aura une chronique ni Dieu ni maître. Nous parlerons un petit peu de vélo, de train, d'amour, avec un point d'interrogation, de plein d'autres choses. En énergie, en environnement, ça sera toujours Laurent. Moi, je reviendrai sur le communiqué de presse du Collège national des généralistes enseignants concernant l'homéopathie. Nous parlerons de sexisme avec Laurent. Et puis après, nous allons entamer quelques informations capitales, avec le C majuscule. Nous parlerons de privatisation, de rails, peut-être de Ford, peut-être de Lactis, et enfin, voilà, peut-être d'autres informations du même genre. Alors, moi, quand même, je voudrais souligner que si vous ne savez pas quoi faire de votre pognon, de nombreuses cagnottes sont à votre portée aujourd'hui. Il paraît que c'est un nouvel impôt, hein, un petit peu quelque part. Vous pouvez participer à tout un tas de donations sur Internet, parce qu'évidemment, c'est l'avenir de tout faire par Internet. Alors, bon, on a toujours pu donner nos sous, hein, à droite et à gauche, hein, ça a toujours été comme ça, mais c'est quand même marrant de voir là, un petit peu comment ce mouvement des gilets jaunes arrive à nous proposer finalement presque de voter en donnant notre pognon. C'est un peu ça, hein, l'idée, hein, là, puisque alors vous prenez parti pour telle personne, pour tel autre, pour tel groupe ou pour tel autre. Alors moi, je voudrais vous donner un chiffre qui m'interpelle, c'est 2 463 personnes qui ont signé l'action en justice contre l'État pour le climat. Hein, c'est en progression, c'est un beau chiffre. Moi, je voudrais parler d'optimisme un petit peu aussi quand même ce soir. Et non pas de pognon et de cagnotte, mais de ces personnes, peut-être vous, hein, qui m'écoutez, qui avaient signé cette pétition contre l'État, mais pour le climat. L'affaire du siècle, ça, c'est important. Et ben voilà, là, c'est une belle mobilisation et c'est sans argent. Il suffit simplement de rentrer un nom, un prénom et un mail, hein, et puis d'accepter ou pas de recevoir la suite des informations concernant cette affaire. Voilà, moi j'avais envie de parler finalement de ça, parce que sur les cagnottes, après on en parle beaucoup médiatiquement, et puis on parle aussi beaucoup dans les médias de ce grand débat national qui, paraît-il, va pouvoir faire accélérer notre démocratie, de parler de grands sujets, hein, suite au mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des médias comme France Info qui s'agacent, parce qu'il paraît qu'il y a des sujets qui sont tabous, et qui veulent savoir pourquoi des sujets sont exclus. En tout cas, c'était dans la matinale de France Info ce matin, les grandes questions sur le sujet. Pourquoi la peine de mort et l'IVG n'ont pas le droit d'être traitées dans ces sujets? Alors moi, je vais répondre à France Info, hein, pour la matinale de ce matin. Bah, parce qu'il faudra m'expliquer comment remettre la peine de mort fait avancer le social et la démocratie en France, hein, puisque c'est quand même partie d'un mouvement de contestation. Alors, on peut le remettre en question, et nous, on l'a déjà fait ici. Mais sur, en tout cas, une recherche d'avancée sociale. Il faudra m'expliquer quand même comment la peine de mort, si on en discute et si jamais remettait la peine de mort pour les vilains terroristes qui sont pas gentils, ça pourrait nous faire avancer dans notre démocratie, et comment empêcher les femmes d'avorter ferait aussi progresser la société, vous voyez, vers le mieux, hein, et puis ça mènerait de l'équité sociale, il paraît. Moi, je vois pas trop, mais c'est un peu comme le mariage homosexuel, il paraît aussi qu'il sait pas bien que ça soit pas rediscuté parce que bah, il y a de la critique. Alors on sait qu'il y a les trolls d'extrême droite royaliste et toute la bande qui montent au créneau sur ces sujets, hein, qui les dérangent. Alors, bon, heureusement, je crois que sur la peine de mort, il y a quand même une majorité de Français et de Françaises qui ont l'air de penser que ça n'est pas la peine de remettre cet outil d'assassinat d'État en place en France. Mais c'est marrant, comme d'un seul coup, on a ces médias hein, comme France Info qui aiment bien faire du populisme et donc demander pourquoi donc ne pouvons pas nous aborder tous les sujets. Arrêtez donc de vous poser des questions débiles et retournez donc faire du journalisme. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que j'ai pensé ce matin en écoutant cette radio qui ne nous ressemble pas trop, en tout cas dans cette émission. Voilà, mais je tiens quand même à redire 2 millions et 4363 signatures tout à l'heure quand j'ai regardé à 18h, c'est vachement chouette. Et tout ça, c'est pour le climat, pour nous.
Voilà, et on va commencer par une rubrique ni Dieu ni maître, avec une actualité locale, puisqu'on va revenir un petit peu sur le procès Barbarin. Alors je vais rappeler d'abord d'où vient ce procès, l'histoire de ces témoignages issus notamment de la structure de l'asso ou du collectif qui s'appelle La Parole Libérée. Tous ces gens, tous ces victimes masculins, des jeunes hommes à l'époque, maintenant ils sont cadra ou quinca, qui ont tous fréquenté une ancienne paroisse de Sainte-Foy-lès-Lyon, là-haut sur la colline qui prie, tous ont connu Bernard Prenat, ce fameux prêtre pédophile, violeur, agresseur. Vous utilisez les mots qui vont bien, mais je pense que tous les mots lui vont, en tout cas tous les mots horribles. Pour la plupart de ces témoignants, ils évoquent tous le plus souvent un problème, alors en dehors du témoignage lié à l'agression elle-même, qui a pris des formes diverses et variées, mais aussi ils évoquent souvent le déni, leur propre déni de ce qui s'est passé, d'où le fait que toutes ces histoires sont sorties bien après qu'elle se soit déroulée. On rappelle, grosso modo, entre les années 70 et le début des années 90, le père Prenat, donc qui nous vient de la Loire, a dirigé le groupe de scouts Saint-Luc, un groupe qui était au départ indépendant et qui après s'est affilié aux scouts d'Europe. Scouts d'Europe, c'est, il y a scouts de France et scouts d'Europe. Scouts d'Europe, c'est les plus fachos. Pour resituer, ils ont fleur de lys, tout ça là. Si vous en avez déjà vu en meute, ça fait un petit peu peur. Donc en 91, ce prêtre va arrêter tout ça, arrêter ses scouts, arrêter. On ne sait pas pourquoi. En fait, on ne sait pas pourquoi. Officiellement, il n'y a pas de raison. En fait, il y a une rumeur importante qui tourne chez les croyants proches de ce quartier et de cette paroisse. Une rumeur importante qui augmente et qui laisse entendre qu'on aurait voulu éloigner ce prêtre des jeunes garçons envers lesquels il n'aurait pas eu que des gestes normaux, dirons-nous. Il est question à l'époque d'attouchement, de fellation, enfin bref, tout ce qu'on connaît et qu'on qualifie de pédophilie. Bien sûr, lui, ses amis et pas mal de gens au sein de l'église lyonnaise crient à la calomnie. Il y en a qui disent, ben non, les gens sont juste jaloux, effectivement, les scouts de Saint-Luc recrutent du monde, ça marche plutôt bien. Et l'excuse trouvée à l'époque, c'est de dire, ben non, c'est juste de la jalousie, les gens attaquent le père Bernard, comme ils l'appellent, parce qu'il a réussi quelque chose. En fait, petit à petit, les infos sortent et il paraît qu'au sein des scouts, on rigolait, je cite, sur la nécessité de serrer sa ceinture ou boutonner sa chemise jusqu'au dernier cran pour éviter les mains baladeuses. Ça vous donne un petit peu le niveau des rumeurs qui traînaient chez les scouts. Ce qui gênait a priori pas grand monde, puisque les affaires ne sont pas sorties tout de suite. En fait, l'origine du départ précipité de l'ecclésiastique, il y a l'indignation des parents de François Devaux, qui est à l'origine de l'association de victimes que j'ai citée au début, qui s'appelle La Parole Libérée. C'est lui qui dépose, enfin lui, sa famille, qui dépose une plainte, l'une des plaintes qui vont être retenues contre le père Prenat. Donc on est en 1991, et ce jeune garçon décrit à ses parents les gestes déplacés dont il dit avoir été victime. À l'époque, l'affaire se règle avec des échanges de courriers entre la famille, le prêtre et le cardinal de l'époque, qui était Albert de Courtrai. Donc à partir de ce moment-là, on est sûr, en 1991, que l'Église est au courant. puisque effectivement échange de courrier, tout ça. Un quart de siècle après, c'est donc on est vers 2000, après 2010 on va dire, c'est d'abord un quadragénaire victime d'attouchement, Alexandre, qui redécouvre en fait par hasard, parce qu'il doit mettre ses enfants au catéchisme, ça lui a pas enlevé sa croyance, que en fait ce père Prena il est encore là. Il dit non mais attendez, il y a un souci quoi. Il prévient Barbarin, le cardinal, le cardinal de 2014, puisqu'on est en juillet 2014, en disant bah attends, c'est pas possible de le laisser. Il va y avoir une enquête, ça va mettre 10 mois pour que officiellement ce père pédophile soit relevé de ses fonctions, qu'une enquête soit diligentée au sein de l'Église catholique et du machin qui s'appelle la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et officiellement, c'est le 31 août 2015 qu'il quitte sa paroisse. Donc vous imaginez, hein, c'est vers 2010 que Alexandre se rend compte des choses. 2014, c'est officiel, et il va être arrêté, enfin enlevé du contact avec les enfants, avec les jeunes garçons, le 31 août 2015. Du coup, on sait qu'en 2014, par exemple, il y a eu une rencontre officielle entre ce Alexandre et Bernard Prena dans les locaux, dans des locaux près de la cathédrale de Saint-Jean, sous l'hospice de l'église catholique lyonnaise. Donc, grosso modo, il y a un temps d'attente incroyable. L'église a rien fait pendant un très long moment. Ça, on le sait. Le cardinal de Courtrai est sûrement responsable. Et il faudra plus d'un an au minimum pour que pour qu'il se passe quelque chose, pour enlever à nouveau le père Prena sous donc la direction de Barbarin. Et donc un procès s'est ouvert contre Barbarin. Faut savoir que dans ce procès, certains ont dit que dès 2010, en fait, hein, Barbarin aurait été au courant. Et le procès, c'est le procès de Barbarin et de quelques autres, ils sont 6 en tout, 5 hein, anciens membres du diocèse de Lyon. Ils sont accusés d'avoir couvert et de ne pas avoir pris les mesures pour empêcher ce prêtre pédophile de continuer d'être auprès des jeunes. Et là, le procès a commencé hier, il se termine aujourd'hui. On a eu des choses fortes, hein, les témoignages. Bon, ça, on les avait déjà eu, hein, le procès du père Prena. Puis on a vu plein de choses. La parole libérée a eu un vrai rôle important, hein, pour ces gens-là, notamment, de faire connaître ce qu'ils avaient vécu. Je pense que ça leur a été utile à eux. Et puis, celles et ceux qui s'intéressaient au problème. Mais on a un procès qui est juste bouleversant au départ et puis après renversant devant les propos tenus par notamment l'avocat qui défend Barbarin, qui s'appelle Jean-Félix Luciani. Alors je vais citer ses propos. Donc il va dire, alors il dit oui, c'est bouleversant. Les témoignages des anciens scouts sur les abus du père Prena, tout ça, là, il reconnaît. Mais ça ne doit pas justifier à eux seuls les poursuites. Alors là, on se dit, ah ben, attendez, il témoigne, il raconte que depuis 2010, tout le monde est au courant, enfin, Barbarin est au courant, il ne fait rien avant 2015. C'est vrai. Alors, et lui, tout le long, il dit, il parle d'émotion. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Alors, il va dire, par exemple, jusqu'où vous demande-t-on d'aller? Dans son réquisite, enfin dans sa défense. En quoi l'émotion est-elle un titre de droit à elle seule? Mais on parle d'émotion, mais d'où il parle d'émotion? Il y a des gamins qui se sont fait violer, quoi, par un prêtre pédophile. Et lui, il ramène ça là-dessus. Et alors, toute sa défense est sur ce plan-là. Donc lui, il y voit un procès avec une instrumentalisation de la justice par ces personnes pour attaquer l'Église. Ce qui est bien évidemment faux, parce qu'une partie de ces personnes sont restées croyantes et chrétiennes. Donc en fait, ils attaquent pas l'Église, ils attaquent celles et ceux qui étaient, enfin ceux, puisque du coup il n'y a pas de femmes, hein, au sein de l'Église dans les responsabilités, c'est, on rappelle, une religion sexiste. Pas du tout, ils attaquent les responsables. Alors il a toute une défense comme ça, il dit que c'est une procédure de trop. Si on prend tous ses propos, on va vomir, hein, donc on va pas aller jusqu'au bout, mais pour lui, l'archevêque de Lyon est exempt de tout reproche sur le plan pénal. Pour pourtant, on se rappelle que dans le passé, Philippe Barbarin, donc le cardinal, a reconnu ses erreurs et a demandé pardon pour ses fautes lors d'une messe. Donc s'il a fait des fautes, des erreurs, c'est grave sur un prêtre pédophile. Et ça paraît logique que la justice s'y intéresse, puisqu'il reconnaît lui-même ses fautes lors de cette messe. Bien évidemment, il estime que c'est la justice de son ami imaginaire, hein, qu'il appelle Dieu, qui doit prévaloir sur la justice des personnages réels et vivants, qu'on appelle les hommes, enfin les êtres humains, pour le coup. Et son avocat, c'est quand même un homme, mais pas une femme. Donc voilà, il y a tout un des propos comme ça qui sont horribles. On se demande jusqu'où il va aller et jusqu'où ça va être accepté. Et en fait, ça va être accepté jusqu'au bout, parce que comble de l'horreur, le parquet, donc c'est-à-dire l'État, représenté ici par la procureure adjointe Charlotte Trabu, ne va requérir aucune condamnation à l'encontre des six prévenus qui ont quand même laissé le père Prénat pendant des années au contact des jeunes. Ça veut dire que il se passe quoi là? Alors le procès n'est pas terminé, c'est pas la procureure qui juge, c'est les juges qui vont juger. Donc on aura la réponse normalement le 7 mars, c'est ce qu'ils ont annoncé. Mais quand la procureure elle dit aucune poursuite, on se dit il y a un souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la procureure, qui est le bras de l'État dans la justice, l'État lui a dit non, faut pas poursuivre, c'est l'Église catholique, faut les protéger, tout ça. Il y a un truc absolument atroce qui est en train de se passer dans ce procès, alors que c'était symboliquement l'occasion de mettre les responsables ecclésiastiques de l'Église catholique lyonnaise et française, du coup, devant ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils n'ont pas fait, surtout. Eh ben non, voilà. Donc on attend le 7 mars pour voir si les juges vont être un petit peu plus justes. Mais on n'est pas rassurés, quand même. Et puis dans la série Ni Dieu ni Maître, Emmanuel Macron, vous savez, c'est le président de la République, qui est très fan des religions. Hein. Il aime bien les religieux. Je pense qu'il aime bien tous les hommes de pouvoir. Et les religions, c'est des hommes de pouvoir. Du coup, il a reçu l'ensemble des responsables des cultes qui sont qualifiés d'officiels dans la République française. Bizarrement, on rappelle, alors du coup, dont le but est de casser la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Hein. C'est le but engagé dans cette affaire-là. Alors, il reçoit donc la conférence des évêques, donc l'Église catholique, la Fédération protestante de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, la partie Europe de l'Est russe, parce qu'ils ont une présence qui existe en France, le grand rabbin de France pour les croyants juifs, le président du consistoire, les représentants bien sûr du culte français, musulman, et l'union bouddhiste. Ça, c'est les religions que l'État reconnaît. Toutes les autres petits trucs, les évangélistes, les machins, tout ça, non, on les reconnaît pas, on veut pas en entendre parler. Donc déjà, il y a une inégalité de traitement. Pourquoi pas recevoir tous les gens qui se prétendent être une religion? Puisqu'il y a, comme il y a une séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas de religion qui est acceptée en France. Elles ont tout le droit d'exister, sauf si c'est des sectes. Hein. Donc là, déjà, il fait un choix politique fort en disant ça, pour nous, c'est des religions. Alors, il y a les deux religions fortes en France, je pense, en termes de croyants. C'est l'Église catholique, enfin, les chrétiens, on va dire, avec les cathos et les protestants, et les musulmans, qui sont, par les gauchistes imbéciles, qualifiés souvent de religion minoritaire, mais pas du tout. Hein, ils sont bien plus nombreux que les bouddhistes, et puis, je vous parle pas des petites religions dont on parle même pas, et du djihadisme, dont il n'est pas question ici. Donc, des religions minoritaires, il y en a beaucoup, hein. Donc il reçoit ces gens-là, M. Macron avec M. Castaner. Donc l'objectif, c'est de modifier la loi de séparation de l'Église et de l'État. Quel est le but? Eh bien, on va le comprendre vite fait, le but, parce que on nous explique que la démarche va s'axer autour de 5 axes, je cite, conforté par la loi le principe de laïcité. Alors ça, c'est juste pour poser les trucs, pour calmer ceux qui n'aiment pas les religions, les athées, les rationalistes, tous ces gens-là. Deuxième truc, accompagner les musulmans dans la structuration et l'organisation des structures cultuelles. Ah, on se dit, en fait, c'est un truc sur l'islam. Donc on prend, et après il justifie par d'autres trucs. Bon, grosso modo, l'objectif, c'est que l'État prenne la main sur une religion particulière, qui est l'islam. L'État compte pas prendre la main, du coup, sur les protestants, sur les cathos, les bouddhistes, tout ça, mais c'est vraiment l'islam qui est visé. Et l'idée, c'est donc de former les imams, de gérer les mosquées, et de casser la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État pour prendre la main sur l'islam de France. Je ne sais pas en quoi l'État devrait s'immiscer dans certaines religions, et pas dans d'autres d'ailleurs. Donc voilà. Alors, pour essayer de calmer le jeu, Castaner reçoit en parallèle discrètement quand même les associations dites rationalistes ou laïques, l'association de la Fédération nationale de la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, des choses comme ça, mais c'est juste pour la forme. Grosso modo, l'État est en train de valider le retour du religieux au sein même d'un truc important qui était la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle, hein, pour les rationalistes, parce que ça commence comme ça et à la fin ça finit, comme en Alsace là-bas, avec un concordat, et on sait ce que ça veut dire. C'est encore à moi ?
Ah oui. Eh oui.
Ah, je m'arrête, tu bougeais pas, donc c'est encore à moi. On va parler un peu énergie et environnement. Des infos, deux petites infos, voilà, un peu symboliques de ce qui est en train de se passer. Si vous êtes cycliste et que vous avez déjà essayé de mettre un vélo dans un train, vous vous êtes rendu compte que c'est galère. Galère, pourquoi ? Parce que la SNCF, depuis le début, rechigne à autoriser les vélos et les enlève petit à petit. Il y a des lignes où c'est carrément interdit. Mais il est en train de se passer un truc important, ou intéressant en tout cas, puisque un amendement au niveau du Parlement européen a été voté le 15 novembre dernier, on n'avait pas fait gaffe, qui oblige les compagnies faisant circuler des trains à embarquer des bicyclettes. Enfin, des vélos, quoi, dans le train, à laisser une place pour les vélos. En fait, le texte, je vais le citer, le texte adopté, ça dit « Les voyageurs ont le droit d'embarquer des bicyclettes à bord d'un train, y compris pour les services à grande vitesse, les services longue distance, les services transfrontaliers et locaux. Tous les trains de voyageurs neufs et remis à neuf doivent, au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, c'est un règlement en fait, hein, c'est un amendement sur un règlement, comporter un emplacement bien indiqué pour le transport de bicyclettes non démontées avec un minimum de 8 emplacements. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets, les voyagistes et le cas échéant les directeurs de gare doivent informer les voyageurs au plus tard au moment de l'achat du billet des conditions applicables au transport de bicyclettes, etc. etc. » Ça c'est pour celles et ceux qui avaient pris un billet de train où c'était écrit il y avait petit symbole vélo, puis quand vous arrivez, il n'y a pas de truc pour le vélo. Hein, ça, voilà. Ça, c'est typique de la SNCF française qui a toujours été très anti-vélo. Donc c'est une avancée importante pour le droit des vélos et l'idée, parce que derrière le vélo, on va pas défendre une catégorie des vélos, mais derrière le vélo, il y a l'idée que les gens utilisent le vélo pour aller de chez eux à la gare et après le train. Et de l'autre côté, pareil, qu'ils aient pas à utiliser les transports polluants aux deux bouts et qu'il n'y ait que le train au milieu, qui soit un transport un peu respectueux de l'environnement. L'idée, c'est bien ça. Donc c'est un impact sur les deux bouts du transport pour faire qu'il n'y ait pas de bagnole dans les deux autres bouts, quoi. Voilà. Alors, c'est un article, il y avait déjà un article, hein, dans le règlement des droits des voyageurs ferroviaires, mais qui n'était pas contraignant, un article qui date de 2007. Donc là, ça le remet à jour. Alors, faut savoir que c'est ça a été adopté là par la commission transport. C'est un règlement. Et un règlement, c'est un acte législatif qui est contraignant. Ça n'a pas besoin... ça peut pas être mis en cause directement. Il n'y a pas d'autres votes possibles. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité quand même. S'il n'y a pas besoin d'être transposé dans le droit national de chaque pays, ça marche tout de suite. Sauf que, il faut quand même, pour valider et terminer le processus législatif sur un règlement, qu'il y ait un accord avec le Conseil européen. Cette aberration, là, qui est le Conseil européen, là. Donc, il faut qu'il y ait une réunion des ministres des transports de tous les pays membres, pour qui prennent ce règlement et qui l'acceptent ou pas, ou qui le modifient, enfin qui a un texte commun. Il y a une négociation qui va se passer entre le Conseil européen et les parlementaires qui ont voté ce texte. à savoir qu'il a été voté à une très très large majorité par quasiment tous les parlementaires européens, quelle que soit la couleur politique. C'est pour dire qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du lobbying énorme. Il y a un lobby officiel des entreprises ferroviaires qui s'appelle la Communauté Européenne du Rail et qui a fait pression pour pas que ça se passe. Bon, ils y sont pas arrivés et qui vont continuer de faire du lobbying maintenant auprès des ministres des transports de chaque pays. Donc c'est pas gagné encore, mais ça a fait un grand progrès. Le problème aujourd'hui, c'est que avec l'introduction de la concurrence, on en parlera tout à l'heure, la concurrence notamment dans le rail, cette concurrence va imposer aux compagnies ferroviaires de se transformer pour devenir, pour sortir de la notion de service public, pour devenir une entreprise commerciale et donc concurrentielle. Pour ça, il faut réduire les coûts, il faut séduire le voyageur le plus rentable, et bizarrement, et on a fait une constatation au niveau de l'Europe, le cycliste ne fait jamais partie des priorités des compagnies privatisées ou qui circulent dans des conditions concurrentielles. Pour les exploitants, le vélo, c'est un espace de train perdu, dans lequel on peut pas vendre de billets pour un passager. C'est perçu comme ça. Même aux Pays-Bas, hein, qui est le pays où il y a le plus de vélos en Europe, les places pour les vélos sont quand même limitées dans les trains. Alors vous allez me dire qu'il y en a beaucoup plus que qu'ici. Mais c'est quand même limité parce que les compagnies, pour les compagnies, le vélo, c'est de l'argent en moins. Hein, c'est un passager en moins. Donc il y a des enjeux importants. La libéralisation, l'ouverture à la concurrence, va à l'encontre des politiques de déplacement non polluants, notamment en intégrant le vélo dans les transports collectifs. Alors c'est le train, je ne vous parle pas des transports en commun où là c'est carrément inexistant sur le territoire français. Mais voilà, c'est quand même un règlement qui va dans le bon sens et qui permettrait peut-être de diminuer un petit peu l'utilisation de la bagnole. Et puis, deuxième petite info dans cette rubrique énergie et environnement, c'est la mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait un petit peu. Anne Hidalgo avait pas mal porté, comme la maire du 1er arrondissement de Lyon d'ailleurs, l'idée de généraliser, enfin de faire des transports en commun gratuits pour inciter toutes et toutes à prendre ces transports-là plutôt que de prendre des transports individuels. Et donc il y a eu une réflexion, donc là c'est 9 mois de réflexion, de consultation, et Anne Hidalgo a fait un énorme pas en arrière puisque elle a dit que c'était pas jouable de rendre les transports gratuits. Donc c'est perdu pour les transports gratuits à Paris. Elle a quand même fait une toute petite concession, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 11 ans. Bon, voilà. Ce qui ne change pas grand-chose, hein, ceci dit, puisque les enfants de 11 ans ne vont pas prendre le métro tout seuls, forcément. Avant 11 ans, c'est un petit peu tôt. Donc voilà, c'est rien. Elle dit, en fait, il faut revenir dessus. La gratuité, c'est pas, comme elle dit, je cite, l'alpha et l'oméga d'une politique de transport ou de mobilité. Non, c'est dommage. La justification est juste ridicule. Ça en fait partie, quand même. Et pas que pour des raisons environnementales, d'ailleurs, pour des raisons d'équité sociale. Que les transports en commun soient gratuits, ça permet à tout le monde de les prendre, notamment aux personnes qui sont pas toujours riches. Alors vous me direz, il existe des choses dans certaines villes pour les plus pauvres, mais il y a toujours des pas assez pauvres qui échappent aux aides, etc. Donc la gratuité, ben voilà, on sait qu'on rappelle, hein, les transports sont gratuits à l'usager, mais pas pour les contribuables, puisqu'on les paye dans les impôts, etc. Mais l'utilisateur, lui, il ne paye pas directement quand il utilise. Voilà, c'est raté. On n'attendait pas moins d'Anne Hidalgo, hein, qui fait beau. Ah, bon, okay, voilà, c'est juste une politicienne. C'est un petit peu triste quand même.
Alors que s'il y aurait bien une idée, c'est justement à partir de 11 ans, 12 ans, c'est-à-dire quand tu deviens collégien et collégienne, de t'inciter et de t'habituer à prendre les transports en commun. Mais bon, écoute, on doit être, je sais pas, trop dans l'utopie dans cette émission. Alors, je vais parler d'un sujet qui concerne l'homéopathie. Vous savez que depuis mars 2018 et cette tribune dans le Figaro de 124 médecins, c'est la guéguerre.
Ouais, ça a pas mal remué.
Ça remue. beaucoup. Mmh. On attend donc au printemps le rapport de la Haute Autorité de Santé, hein, puisque le ministère de la Santé a saisi cette Haute Autorité pour évaluer l'efficacité de l'homéopathie, ce qui me fait moi bien marrer, puisque la non-efficacité a déjà été prouvée scientifiquement. Donc, aller demander à la Haute Autorité de Santé de prendre des mois pour valider quelque chose qui est déjà bien validé par plein de gens au niveau scientifique, c'est quand même un peu se moquer du monde. Mais enfin bon. Il y a donc la question du remboursement qui a été soulevée plusieurs fois, puisqu'un certain nombre de ces petites choses peuvent être amenées à être remboursées. Et puis surtout qu'on a des médecins, hein, qui aujourd'hui sont homéopathes.
Ouais, ça c'est l'escroquerie ultime.
Alors écoute, moi je vais te raconter une anecdote tout à fait personnelle, mais dans un cabinet de médecine générale, là où il y a plusieurs médecins, et ben, il y a un petit panneau, parce que l'un des médecins fait de l'homéopathie, et ben, il est noté que la consultation est plus chère.
Oui, parce qu'il passe plus de temps, parce que l'homéopathie c'est pas simplement le médicament, dans la médecine il y a, on doit discuter avec le patient.
Et oui, donc ça prend du temps. Et alors c'est marrant parce que pour quelque chose qui est de l'ordre du placebo, ça prend, c'est plus cher. Et bon, enfin, vous voyez, il y a tout un processus derrière qui est quand même très
alors,
intéressant.
Pour le coup, c'est cohérent, parce que oui, pour qu'un placebo fonctionne, il faut que le rapport soit le meilleur possible entre le soignant et le soigné. Du coup, effectivement, ils augmentent l'efficacité de l'effet placebo.
C'est ça. Mais il faut qu'on rappelle.
Mais ils ne l'assument pas, en fait.
Il faut que l'effet placebo, on rappelle que ça marche très, très bien aussi quand.
Même quand on le sait.
Les médecins. Ouais, mais alors ça marche encore mieux quand on sait que les médecins sont eux-mêmes persuadés. Par exemple, quand vous avez des tests à l'aveugle, il y a des études qui montrent que, en fait, quand le médecin est persuadé de te donner le bon produit, et ben lui-même participe aussi au fait, ouais, que toi-même tu rentres dans le processus de penser avoir non pas le placebo mais le médicament test par exemple. Donc c'est tout, enfin on a déjà parlé plein de fois du placebo ici, c'est pas le propos du jour. Je souhaite vous lire en intégralité le communiqué de presse du Collège National des Généralistes Enseignants qui est paru ce jour, un communiqué de presse, et je vais vous le lire, voilà. Tout simplement,
on écoute.
Je suis allée sur leur site. Il est temps de dérembourser les médicaments homéopathiques. Il est temps que l'homéopathie sorte du champ universitaire. Le CNGE, le Collège National des Généralistes Enseignants, a sollicité l'expertise de son conseil scientifique sur l'état de la science concernant l'efficacité spécifique de l'homéopathie. Le conseil scientifique du CNGE a produit une synthèse publiée dans le dernier numéro de la revue Exercée. La médecine générale s'appuie sur une définition européenne, WONCA, sur la médecine fondée sur les preuves, EBM, et sur un référentiel avec de grandes compétences génériques. La pratique de l'homéopathie arguant d'une activité spécifique n'apparaît pas compatible avec cet ensemble et donc avec la discipline. Elle vient en opposition avec tout le courant moderne et important de la médecine générale qui promeut les approches non médicamenteuses, les démarches d'éducation, d'autonomisation du patient et le travail sur les changements d'habitude et de comportement indispensable pour suivre les patients présentant des situations complexes, parfois fonctionnelles. La médecine générale est une spécialité scientifique utilisant aussi bien les avancées techniques et les progrès de la thérapeutique médicamenteuse que les sciences humaines et la communication pour mieux prendre soin des patients. Il est nécessaire d'abandonner les méthodes ésotériques qui appartiennent à l'histoire et qui aujourd'hui trompent les patients comme encore certains professionnels. Au vu des conclusions de l'expertise, il n'y a aucun élément pour justifier encore aujourd'hui le remboursement de ces « médicaments » entre guillemets par la collectivité. Il n'y a de même aucune justification à l'enseignement de ce type de pratique mystérieuse à l'université ni au moindre label universitaire.
Ouais, c'est pas mal. Alors, on rappelle que non seulement l'efficacité, elle n'existe pas au-delà de l'effet placebo, mais qu'en plus la démarche de l'homéopathie est scientifiquement fausse. Hein, c'est un truc vraiment tout le long du processus, c'est entaché de choses dont on a démontré que ça ne marchait pas. Notamment que c'est pas parce qu'on a les mêmes causes, c'est-à-dire les mêmes symptômes, si on parle de la maladie, que ça a toujours la même cause. Donc en fait, on soigne pas par rapport aux symptômes, mais par rapport à la cause de la maladie. Or l'homéopathie fait l'inverse. Hein, elle dit si t'as mal au ventre à cause d'une maladie et que le poison te donne mal au ventre aussi, et ben le poison va pouvoir te soigner. Or en fait ça peut être des actions totalement différentes, hein, scientifiquement. Donc c'est vraiment, tout est aberrant, la dilution, bon ça on sait depuis longtemps aussi, mais voilà, il n'y a pas de justification scientifique sérieuse. C'est un médecin farfelu, hein, qui a inventé ça.
Alors ce qui est il faut se rappeler que dans la tribune du mois de mars parue dans le Figaro par le collectif des 124 médecins, les médecines alternatives et leurs praticiens étaient traités de charlatans. Donc il y a quand même aujourd'hui aussi cette idée dans un certain une partie du corps médical de dire que effectivement peut-être que vous avez un médecin généraliste qui aujourd'hui pratique l'homéopathie, des livres de l'homéopathie, mais va agir dans un cadre de psychologie envers son patient ou sa patiente. Mais il y a aussi un certain nombre de médecins aujourd'hui qui ne sont pas des scientifiques et qui vont avoir un blabla de charlatan, un blabla ésotérique, et qui finalement... embourbe le patient ou la patiente dans du grand n'importe quoi. Et c'est aussi ça qui est aujourd'hui attaqué, c'est-à-dire remettre de la science dans la médecine, et en particulier chez les médecins généralistes, qui sont des médecins de proximité, et qui pour certains travaillent en cabinet à plusieurs, donc peuvent échanger sur les nouvelles pratiques, mais certains et certaines sont depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans tout seuls dans leur cabinet, avec leurs petites pratiques homéopathiques, ésotériques, toutes pourries, hein, pardon pour l'expression peu scientifique, mais qui ne cherchent pas du tout à se renseigner sur les nouvelles conditions d'enseignement. Et aujourd'hui, il y a un nouveau type de médecin qui est en train d'arriver, hein, il y a une nouvelle depuis une dizaine d'années, les nouveaux médecins qui pensent autrement la médecine, qui pensent pas vous donner des médicaments d'abord à n'importe quoi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de repartir avec une ordonnance. Ça, c'est aussi une nouvelle pratique, et c'est ce que nous raconte hein, ce communiqué, et qu'il y a aussi besoin de science, qu'il y a besoin de technique pour être un bon médecin aujourd'hui. Et que je trouvais intéressant de vous lire tout ça. En tout cas, moi, ça me fait marrer parce que juste pour rappeler que le syndicat national des médecins homéopathes français, déjà, moi, ça m'écorche la bouche de dire médecin homéopathe, mais enfin, bon, c'est pas grave, a déposé hein, plusieurs plaintes hein, depuis la tribune du mois de mars et attaque, un peu comme quand Boiron attaquait tout ce qui s'attaquait à l'homéopathie, allait dénoncer des pratiques mensongères, par exemple. Et on sent que là, il y a des homéopathes qui, comme Boiron, essayent de se défendre et donc attaquent en justice.
Mais c'est drôle qu'ils sont jamais arrivés à démontrer que un médicament homéopathique était plus efficace qu'un effet placebo. Ils sont quand même fous, hein. Ils vendent quand même quelque chose où l'efficacité a jamais été démontrée dans aucune étude digne de ce nom. Incroyable. Bon, bref, nous allons parler un peu de sexisme maintenant. Avec deux petites infos, la première, vous avez peut-être entendu parler, c'est sorti hier, c'est au CES, c'est le Consumer Electronics Show, c'est au, je sais pas où, c'est aux États-Unis d'Amérique, à Las Vegas, yes, in the desert. Un grand salon high-tech qui se tient chaque année, où il y a toutes les entreprises vont montrer leurs innovations, les trucs indispensables dont vous vous passiez très bien jusqu'à maintenant et qui, il paraît, vont vous rendre la vie meilleure. Cette année, une entrepreneuse, entrepreneuse, je ne sais pas si c'est le mot féminisé qu'il faut utiliser, Laura Haddock, fondatrice donc d'une entreprise qui s'appelle Laura Di Carlo, et elle était venue présenter un sextoy, donc un sextoy connecté. Bon, je vois pas l'intérêt d'un sextoy connecté, mais bon, si c'est dans le monde moderne qui nous échappe, tout doit être connecté, même les sextoys. Bon, bref, elle y va avec son produit dit « main libre », censé recréer, je cite, « toutes les sensations de la bouche, de la langue et des doigts » pour entraîner des orgasmes féminins. Un sextoy, quoi. Voilà. Il est juste plus moderne parce qu'il est connecté. Donc, il doit apparaître des choses sur ce smartphone. Moi, ça me fait marrer.
À une heure d'écoute assez large, donc je vais éviter, mais je pense à plein de trucs. Hein, ouais. Pardon, bon, j'ai plus d'imagination que toi, peut-être.
Et il y a un mois environ, un jury indépendant lui avait d'ailleurs décerné le prix CES de ce salon-là, de l'innovation, dans la catégorie robots et drones. Bon, il n'y avait pas de catégorie sextoy, donc ils ont pris la catégorie qui se rapprochait le plus, robots et drones. C'est pas très robot, pas très drone, mais ça pourrait se rapprocher du robot. On va en parler d'ailleurs par la suite. Mais elle a été empêchée de présenter son produit sur son stand et la récompense lui a été retirée par la Consumer Technology Association, qui est cette association qui gère ce fameux salon CES. Au motif, je cite, que son produit serait, attention, immoral, obscène, indécent, profane et non conforme à l'image de la Consumer Technology Association. Alors, immoral, bon, bah, de toute façon, en fait, tout est immoral. Moi, je trouve immoral le téléphone. Bon, bah, et alors, les gens, ils ont le droit d'utiliser. Enfin, la morale, c'est quand même un truc un peu compliqué à généraliser sur l'ensemble de la planète, puisque c'est un salon qui est ouvert sur l'ensemble de la planète. Bon, obscène, bon, ça se discute aussi, indécent, ça, et profane. Alors ça, c'est énorme, quoi. Parce qu'un téléphone, c'est pas profane, peut-être. C'est un truc sacré, le téléphone. Ah oui, si, pour eux, c'est sacré, peut-être. Ah bon, voilà. C'est une l'excuse, elle est ridicule. C'est un truc sexiste. Ils attaquent une femme parce qu'elle présente un sextoy féminin. Et on en a la preuve. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'est défendue. Elle s'est très bien défendue, Laura Haddock. Elle dit, ben, c'est bizarre. Il y a un robot sexuel en forme de femme pour les hommes qui a été présenté. Et là, pas de problème. C'est normal. Et effectivement, ça ressemble quand même à un gros coup de sexisme, parce que présenter un robot sexuel d'apparence féminine, c'est pas immoral, c'est pas obscène, c'est pas indécent, c'est pas profane, et c'est conforme à l'image de la CTA. Par contre, son petit sextoy, alors là, oui, par contre, c'est tout ça, donc vraiment, non, c'est juste une attaque contre une femme qui avait présenté un truc, je suis pas sûr, novateur, hein, pour le coup, mais en tout cas, qui avait eu un prix, qui a enlevé, parce qu'il y a dû avoir une attaque des milieux conservateurs américains. Il y en a quand même dans le monde numérique moderne. Et la deuxième info sur le sexisme, alors je vais pas me faire la défense de Madame Schiappa, que je n'aime pas vraiment au niveau politique, bien évidemment, mais en ce moment elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux.
Ah, c'est absolument hallucinant, voilà. Les propos qui sont employés sont quand même d'une violence inouïe.
Donc on rappelle, elle est en charge de l'égalité homme-femme, c'est peut-être pour ça que ça énerve les gros imbéciles machistes. Donc elle est victime de pas mal de choses. Alors il y a, suite à la cagnotte du fameux boxeur et à la cagnotte des imbéciles qui veulent donner de l'argent aux flics, là, bah, y a eu une cagnotte qui dit donner de l'argent pour que Schiappa ferme sa gueule. C'est pas mal comme concept, hein. Et alors les commentaires, c'est qu'elle crève, la tarée, je cite, la tarée néo-féminazi, c'est le féminazi, c'est le terme utilisé par les hommes d'extrême droite anti-femme, là. Tu devras rendre des comptes, chipolata. On va jusqu'au bout, la méprise. Enfin voilà.
Enfin, elle s'est fait traiter de sale pute. On va
y a
crever,
des incitations, hein, au viol.
Moi j'ai lu des trucs, c'est absolument honteux, quoi. Enfin, de...
Or.
Waouh, c'est d'une violence incroyable.
Or, on peut, comme c'est mon cas, la détester politiquement, mais l'attaquer sur des problèmes et des idées politiques. Et pas parce que c'est une femme. Et là, tout ce qu'elle prend dans la gueule, c'est parce que c'est une femme. Donc voilà, c'est juste honteux, et c'est pas tous les jours que je défends quelqu'un de La République En Marche. Enfin, je dénonce tous ces imbéciles machistes qui l'attaquent, et qui l'attaquent pas sur les idées. C'est d'ailleurs intéressant. Alors, quelquefois si, bien évidemment, parce que bon, l'égalité homme-femme, tout ça, faut arrêter les conneries, hein. Y a quand même un vrai discours machiste et anti-femme qui est aussi porté, des fois, relativement intelligemment. Je ne sais pas si on peut qualifier ces gens d'intelligents, mais en tout cas, respectueusement, etc., qui ont un discours à gerber quand même, mais au moins qui n'est pas insultant, qui est sur le point de vue politique. Les mecs, souvent c'est des mecs qui disent non, la femme ne doit avoir aucun pouvoir, etc. C'est indéfendable, mais au moins il n'y a pas toutes les horreurs derrière. Les horreurs, elles sont juste finalement sur les conséquences quand même, hein. Bon, bref. Voilà, c'est le sexisme a quand même encore, malheureusement, beaucoup d'espace.
Alors, j'ai perdu mon petit papier, juste pour vous dire que, en même temps, j'en ai pas vraiment besoin, ça va aller très vite. C'était juste pour vous dire qu'on a appris qu'a priori, le planning pour les privatisations en cours mis en place par le gouvernement va être un petit peu retardé. C'est-à-dire que, vous savez, l'idée, c'est de se débarrasser de la Française des Jeux.
Parce que ça gagne trop d'argent.
Mais c'est un peu comme les autoroutes, hein. C'était un peu le discours qu'on avait quand ça a été privatisé. C'est vrai que ça faisait trop de sous. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, dans l'idée de via les aéroports de Paris aussi, par exemple, vous voyez, à l'ADP.
Ça gagne aussi pas mal.
Voilà, donc c'est bon.
Tout ce qui est rentable, on le donne au capitalisme.
Ouais, voilà. Alors, apparemment, le planning est un petit peu repoussé. Alors, bon, il paraît que c'est pas du tout lié au mouvement des Gilets jaunes, au bazar en ce moment politique. Parce que vous avez quand même remarqué que il y a des ministres dont on parle plus du tout. Je veux dire, aujourd'hui, on
parle de presque personne, là.
Ah, ben non. Tu sais ce qu'il fait, toi, en ce moment, Franck, le nouveau ministre de la Culture? Non. Enfin, si, moi, j'ai un peu lu parce que ça m'y intéresse, hein. Il nomme des gens en ce moment, par exemple, dans les conservatoires nationaux en région. Mais en fait, sinon, on n'a aucune idée de ce qu'il fait. Parce qu'en même temps, il ne doit pas faire grand-chose, vu que de toute façon, tout le monde est occupé à essayer de rattraper les bêtises du gouvernement, les petites phrases de M. Macron et tout ça et tout ça. Donc, bon, on ne sait pas bien ce qu'ils font tous et toutes. Donc, bon, en tout cas, il paraît que ce n'est pas lié au mouvement des Gilets jaunes, au bazar du gouvernement, le planning repoussé pour privatiser donc l'aéroport de Paris et la Française des Jeux. Et puis, il paraît qu'en fait, non, mais ce n'est pas le bon moment. C'est-à-dire, si j'ai tout saisi leur argumentation, c'est que la bourse étant pas bien, ça vaut pas le coup de vendre. En même temps, c'est un peu débile parce qu'après, il y aura toujours un moment où t'auras pas du coup les mêmes emprunts, les mêmes prêts, les mêmes possibilités d'achat. Qu'en fait, c'est jamais le bon moment, vous savez, pour vendre et pour acheter. Hein, ça, c'est un discours de capitaliste.
En même temps, moi, je serai au gouvernement. Tu sais ce que je ferais?
J'attends.
Je vendrais la Française des Jeux, là, machin, truc. Et 15 jours après, j'interdis les jeux d'argent. Enfin bon, bref, je suis un salaud.
Non mais c'est l'idée toute... On en parlait sur l'Albanie semaine dernière.
Parce que les jeux d'argent, c'est un vrai problème. Que l'État veut pas, enfin que les politiques veulent pas prendre en main parce que c'est une vache à lait, parce que ça, c'est une vache à lait pour deux raisons. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour l'instant, et ça en fera toujours rentrer puisqu'il y aura toujours des taxes. Et deux, ça permet au peuple. Enfin, je vais pas utiliser ce mot horrible. Ça permet aux gens, c'est pas mieux, ceci dit. Ça permet à pas mal de personnes qui ont aucun espoir dans la vie, de s'accrocher sur, pourvu que je gagne au loto, au lieu d'aller se rebeller.
Jouent, en fait, c'est très partagé.
Moi, je ferais ça, tu vends à des capitalistes un truc super cher, et 15 jours après, t'interdis.
Un des autres arguments, justement, c'est de dire que ça pourrait faire partie, du grand débat. National de parler des privatisations alors qu'en fait c'est déjà engagé le processus, donc vouloir nous faire croire que mettre sur la table est-ce qu'on pourrait finalement vraiment privatiser ou pas Aéroport de Paris, c'est un peu se moquer de nous encore une fois, hein. Mais bon voilà, j'ai pas grand chose à en dire à part que en fait c'est encore repoussé cette affaire, mais il paraît que c'est pour notre mieux parce que il faut bien vendre. Ah aussi, ouais, voilà. Une fois qu'on aura vendu comme ça,
t'as tout vendu.
Il y a plus rien qui rentre, mais enfin bon, c'est tout marrant. Puis alors, les autres aussi qui aiment pas l'Union européenne disent que c'est la faute à l'Union européenne puisque il y a des problématiques de secteur concurrentiel et tout ça. Donc on est obligé. Vous savez, la France est obligée.
On rappelle que ces lois européennes, en fait, elles ont été souvent portées par les gens des gouvernements. Elles sont en général portées par les gens des gouvernements.
Elles sont pas inventées comme ça par les extraterrestres, si tu veux.
On peut pas condamner un truc.
L'autre truc marrant. Alors, on va parler d'un truc marrant que j'avais pas mis dans ma petite liste. Vous vous souvenez de June, ce machin créé par Air France, dont j'avais un petit peu parlé ici, c'est-à-dire une espèce de compagnie bizarre créée pour développer une nouvelle clientèle avec des nouvelles destinations, tout ça, tout ça. Bon, en fait, June, ça va être réintégré dans Air France. Tout ça pour ça. Moi, je vous le dis, c'est quand même 600 personnes.
Oui, mais il en reste hop.
Et hot de...
Il y a hop aussi. Non, c'est
tu
ça.
Le fais bien. Non, parce que vous n'avez pas l'image, on n'est pas à France Inter. Mais voilà.
Parce qu'il y a un point d'exclamation.
Tu sursautes sur ton
Donc,
petit
Air France,
tabouret.
À un moment, ils avaient la manie de.
De créer des trucs.
Des filiales comme ça, là.
Bon.
Donc là, ils font machine arrière un peu.
Ben, en fait, il y a. Je suis en train de perdre. J'ai perdu son Ben Smith, le directeur général du groupe Air France KLM, qui est dans des petites modifications internes, qui veut la paix sociale aussi avec les syndicats, parce qu'ils en ont un peu marre, hein, quand même. Donc là, il y a quand même 600 hôtesses et stewards, comme on dit, hein. En tout cas le personnel qui vole qui va être réintégré donc dans Air France, ce qui évidemment a amené à signer deux nouveaux accords, hein, parce que c'est marrant tout ça quand même. C'est très drôle là parce qu'on a quand même beaucoup de marketing sur ça et puis d'un seul coup on réintègre parce que ça marche pas bien. Alors il a dit Smith donc je suis très heureux de ce nouvel accord équilibré qui représente l'aboutissement des discussions catégorielles avec nos personnels navigants commerciaux en collaboration avec, alors là je voulais faire hein, SNPNC, LUNAC, LUNSA PNC, nous avons été en mesure de résoudre de nombreuses préoccupations de nos PNC, hein, le personnel donc navigants commerciaux, tout en travaillant simultanément à aligner leurs intérêts sur ceux d'Air France. Avant cet accord, je souhaite que la confiance et le dialogue entre Air France et tous nos collaborateurs continuent de s'améliorer car je crois profondément que c'est par l'adhésion de tous que nous deviendrons un leader mondial, donc la paix sociale, je vous le disais tout à l'heure. D'autres qui veulent pas trop la paix sociale, c'est Ford. Ford a donc annoncé une vaste, très très vaste plan de réorganisation des activités en Europe. Il va donc y avoir un certain paquet de suppression d'emplois. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau communiqué qui annonce que donc il va y avoir des consultations avec les organisations syndicales, les travailleurs et les travailleuses qui vont être mis en place. Alors là, l'idée toute simple de Ford, c'est renouer avec la rentabilité à court terme. Donc on licencie à court terme. Forcément, hein, ça va être facile. Donc là, l'objectif, il est simple, hein, aussi dans le communiqué, c'est réduire les coûts de main-d'œuvre. Efficace, facile. Non, mais je veux dire, il n'y a pas plus simple. Hein. Bon, alors, il faut dire que ça fait un petit moment que Ford vend moins bien sur une partie de la planète. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu tout ça et puis être de forte concurrence. Alors, il faut quand même se rappeler d'un chiffre, c'est qu'il y a 53 000 salariés en Europe dans le groupe. C'est beaucoup de monde quand même, hein, voilà. Que Ford ne se porte pas très bien par rapport à d'autres concurrents qui arrivent à la manœuvre avec de gros véhicules. Vous savez, il y a aussi une guéguerre un petit peu sur le type de véhicules qui sont aujourd'hui mis sur le marché. Et puis que, en termes de capitalisation, l'action de Ford, elle ne va pas très très bien.
Oui, et puis dans le milieu de l'automobile, on l'a vu avec les chiffres qui ont été annoncés aujourd'hui par Jaguar, je crois.
Ouais.
Ils battent des records de vente et en fait, on se rend compte que dans les développements du capitalisme de ces 20, depuis les années 80, en fait, les riches s'enrichissent de plus en plus. La classe moyenne perd un petit peu et c'est la classe moyenne qui achetait les voitures Ford, qui achetait ce genre de voitures. Et du coup, ils sont en perte de vitesse par rapport à Porsche, machin, tous ces grands-là, qui eux récupèrent l'argent des supra-riches qui ont pompé l'argent du milieu, hein, faut pas se leurrer. Alors, donc effectivement, Ford, ils sont un peu victimes de ces inégalités au sein des riches et des moins riches. Quoi.
Juste pour dire, Jaguar Land Rover va virer 10% de ses effectifs, 4500 personnes. Hein, non, c'était juste pour dire, parce qu'on a appris ça aussi aujourd'hui. Non, mais c'était la belle journée de l'automobile aujourd'hui. Wouh,
quand tu gagnes de l'argent, faut en vendre encore.
Alors,
plus.
Sinon, hier, il s'est passé un truc, j'avais dit que j'avais envie de trucs marrants quand même aujourd'hui, vous avez une positive. Je vais vous parler de Philippe Poutou. Vous vous souvenez de Philippe Poutou, hein? Bah si, vous vous souvenez, hein, l'ancien candidat NPA.
Ben oui.
Ah ouais, quand même, non, j'en entends là, du fond du poste qui se demande qui c'était. Bon, en tout cas, il s'adresse à Teddy Riner. Vous vous souvenez qui c'est, Teddy Riner?
C'est pas un judoka?
C'est tout à fait ça, très cher ami, avec tout plein de médailles et tout ça, et qui fait souvent de la pub. Il en a fait pour du matelas, hein, si je me souviens bien.
Ça veut dire qu'il loue son image, il vend son image.
Il la loue, ouais, il la vend.
C'est son image, il la vend. Ouais.
Voilà, on peut jouer sur. Il vend même, après, du coup, un petit peu son corps, puisque sur le matelas, je crois qu'il sautait sur le matelas. Enfin bon.
En même temps, si le matelas résiste à Teddy Riner. En fait,
je crois que c'était un petit peu ça. C'est un gros
en général, ouais, il est un peu fort, c'est ça.
Ouais. Ils sont pas tous comme ça, judoka. C'est comme la boxe, il y a plusieurs catégories. Bon, on va pas faire.
Bref, on s'en fout.
Ce qui est marrant, c'est que donc Philippe, il interpelle Teddy, hein, parce que Teddy, il fait une pub pour qui? Pour Ford. Et
oui,
j'ai du lien dans mon affaire, si tu veux.
Là.
C'est paru hier, c'est parce que ça fait un petit moment qu'il y a cette publicité avec Teddy Riner dedans pour la bagnole de Ford. Hein, pour les bagnoles de Ford, il est le nouvel ambassadeur publicitaire.
Il a l'air con, là. Ford est en mauvaise presse, il ferme
donc,
une usine en France, tout ça.
Philippe Poutou, il l'interpelle en lui disant « Coucou, il y a l'usine Ford de Beaufort qui ferme. Hein, qu'est-ce que tu en dis ?» Alors, il lui fait un petit message qui dit: je demande officiellement à être reçu par le nouvel ambassadeur de Ford, Teddy Riner. En tant que salarié de la multinationale, je voudrais lui raconter notre lutte pour sauver l'usine Ford de Blanquefort et nos emplois. Plus de 2000 directs et induits dans la région bordelaise.
Eh ben, on attend de voir ce que Teddy Riner va faire.
Alors, je trouve ça super chouette en fait, parce que je pense qu'effectivement, tous ces gens célèbres, je parle pas des comédiens et des comédiennes qui font de la pub pour vivre, d'accord, dont c'est le métier, acteur de publicité. Je vous parle de tous ces gens qui sont aujourd'hui acteurs, actrices de cinéma et qui font de la pub pour des banques, par exemple, je ne citerai personne, ou qui sont d'ailleurs tout autre chose, comme Teddy Riner, c'est-à-dire qui sont
célèbres,
des sportifs,
en fait, ouais,
qui vous vendent des déodorants, des machines à laver, je suis sûre que ça doit exister, et donc des bagnoles, parce que ça arrive quand même beaucoup. Là, on se dit que, bon, c'est gênant, parce que là, on ne vend pas le jeu. On vend bien le nom et le prénom, hein, et c'est un petit peu, moi je pense qu'on n'interpelle pas assez ces gens qui font de la publicité pour des marques qui sont la plupart du temps critiquables, et en plus là le slogan c'est Teddy qui l'a dit, donc Philippe, moi je te soutiens, interpelle encore Teddy s'il te plaît. Voilà, c'était le truc marrant. Et alors, je voulais terminer juste vite fait avec Lactalis pour dire que Lactalis, c'était pas leur semaine, hein, non plus. Alors, ils ont eu un chouette papier dans le Canard Enchaîné de cette semaine, que, il me semble, tu as lu. Je vais pas m'étendre dessus. Je vous propose plutôt d'aller le lire, hein, dans cette édition du 9 janvier. C'était donc hier. C'est une enquête dans laquelle le Canard Enchaîné nous explique que le groupe Lactalis serait soupçonné de ne pas avoir suffisamment surveillé et prêté attention à un cas de décès d'un enfant en avril 2017, c'est-à-dire avant ce fameux scandale de la contamination à la salmonelle, et qu'il ne se serait pas vraiment intéressé en fait, alors qu'il aurait été que le groupe, la multinationale, a été interpellée, qu'il n'y aurait pas eu non plus beaucoup d'intérêt pour des alertes de parents dont les bébés auraient été malades suite à la consommation de leurs produits. L'enquête se base, hein, sur des documents de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui a été donc un document transmis, hein, au magistrat, donc c'est c'est plutôt une enquête basée sur du sérieux. Lactalis n'a pas trop envie de causer pour l'instant, a priori, sur cette affaire et sur la parution de cet article. Je vous en parle pas plus. Allez donc lire Le Canard Enchaîné, achetez-le, hein, si c'est pas encore fait, lisez, ça sera mieux que moi. Et puis pour vous dire que l'autre problème de Lactalis cette semaine, c'est un dossier qui s'appelle Les prédateurs de la valeur, sorti par la Confédération paysanne, c'était hier. La Confédération paysanne attaque Lactalis en expliquant qu'ils ont des règles fiscales tout à fait bizarres et qu'ils sont peu transparents. Donc la Confédération paysanne, hein, je vous rappelle que Lactalis, derrière, il y a des paysans et des agriculteurs, hein, qui vendent leur lait. Hein, je vous rappelle juste, c'est pour ça que ça intéresse la Confédération paysanne.
Lait ou leurs produits. Hein,
oui, mais bon, en général, Lactalis, il y a quand même beaucoup
de... Oui, Lactalis, c'est beaucoup du lait. Sinon, ça ferait pas du fromage.
Voilà,
c'est
voilà,
vrai, c'est pas con, vous dire.
Oui, je viens à la Confédération paysanne, ne donne pas son fromage camembert comme direct. Ça. Tu vois. Malheureusement, parce que bon, encore, si c'était des petits paysans qui produisaient.
Non, mais ils achètent aussi des fruits, enfin tout ça.
Oui,
parce
non,
qu'ils
non, mais
font
je me moque juste.
Il n'y a pas que du lait.
Je me moque juste. Mais en l'occurrence, la Confédération paysanne les interpelle là-dessus et demande à ce que Lactalis publie ses comptes en toute transparence.
Ouais, parce qu'ils n'ont jamais publié leur compte. Là.
Ils ne sont pas très transparents, non. C'est
ils,
ça.
Ils ne le sont pas du tout, tu veux dire. C'est une boîte noire, en fait, Lactalis.
Voilà. J'avais des guillemets autour de... Pas vraiment, ou pas très. Bon, c'est intéressant parce qu'ils sont attaqués de toutes parts, Lactalis. Hein. Voilà, ce n'est pas leur semaine, on peut le dire. Donc, ils ont fait une petite réponse dans Ouest France avec Madame Caroline Opu. Responsable avec un H, un O et un P et un U, si vous voulez lui écrire. Elle est responsable de la communication. Et dément. Elle dément. Toutes les allégations qui accusent Lactalis d'évasion de fraude fiscale. Il paraît que Lactalis respecte la loi. Il respecte tellement bien la loi que quand il y a des enfants qui ont été signalés comme malades, ils n'ont rien fait. Pardon.
Ouais, non, tu peux pas dire ça.
Ah bah, je sais pas, je lis moi les documents de la presse hein, qui sont fournis pour l'instant. Voilà, je dis ça quand même.
C'est pas jugé encore.
Non, c'est vrai. Donc,
mais ça va l'être.
Peut-être que Lactalis ne respecte pas la loi et donc peut-être qu'ils ne font pas l'évasion fiscale, peut-être qu'ils en font et peut-être qu'ils n'ont pas oublié de prévenir les autorités sanitaires que peut-être que leurs produits étaient infectés, que peut-être ils ont infecté des enfants et que peut-être à cause d'eux un enfant est mort.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne payent pas assez cher ce qu'ils achètent aux paysans.
Juste, je dis juste que pour l'instant, le fait que cet enfant soit décédé, le lien n'a pas pu être établi entre sa consommation d'un produit Lactalis et la maladie hein, qui entraînait la mort.
Et ce qu'on sait, c'est que les analyses ont été faites mal faites, pas dans les règles.
Et tout ça. Voilà. Je tiens quand même à le signaler. Hein, je rigolais en disant non, avec du conditionnel et tout, mais là, pour l'instant, malheureusement,
c'est à charge,
pour les enfants, pour les parents, excusez-moi, il n'y a pas une preuve qui permette d'attaquer directement Lactalis.
Devant la justice, mais y a quand même, voilà. ça laisse entendre qu'il y a eu un problème.
Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que par contre, il y a des manœuvres pour ne pas faire les choses correctement sur un groupe et une multinationale qui a suffisamment de pognon pour faire des analyses correctement. Voilà.
Voilà, il nous reste 2 minutes, du coup on va terminer par un petit agenda.
Il n'y a personne derrière nous, alors tu peux...
Non, j'ai pas envie.
Je peux juste terminer, moi, oui. Par un truc plutôt positif.
Oui.
C'est le maire de New York, si tu veux bien, parce que c'est positif, donc j'avais envie de terminer par un truc positif. Il s'appelle Bill de Blasio, je ne sais pas si vous le connaissez, Bill de Blasio, il a... Alors, je vais terminer par le truc pas bien négatif sur sa tronche, et qu'il a été accusé de corruption. L'enquête a été n'a pas abouti, toutes les procédures ont été levées, mais je tenais quand même à le dire, hein, et que son équipe a priori n'est pas toujours très très propre. Il a été élu et réélu donc à la mairie de New York. C'est un homme qui s'est marié devant deux pasteurs homosexuels avec une femme noire. Il a beaucoup été attaqué pour ça, mais il se présente comme libéral et progressiste. Il fait des choses pour les migrants. Ça change, hein, parce qu'à New York, on n'a pas toujours eu des maires très ouverts.
Ouais, on a eu des maires bien à droite. Enfin, Giuliani, c'était ça.
Tout ça, vous savez, le New York, il fallait nettoyer les rues, mettre la police. Enfin bon, c'était une autre époque. Il a été attaqué donc parce que sa femme elle est noire, parce que du coup il la mettait trop en avant quand il a fait sa campagne. Mais en même temps, il est marié avec. Alors si vous voulez, ses enfants sont noirs. Bah ouais. Ça a choqué les gens que ses enfants soient noirs. Rendez-vous compte, couple mixte, ça passait pas bien. En plus, il y a plein d'histoires. C'est que sa femme, elle était avant d'être mariée avec lui, lesbienne. Elle est certainement encore,
on va dire ça.
Mais elle était ouvertement en couple lesbien avant. Et ça fait du coup, je te dis pas comment il est pas du tout aimé. Il cumule un petit peu les trucs parce qu'il a une histoire personnelle de couple, tout ça qui ne plaît pas trop. Et alors donc, il a eu une belle idée. C'est il veut rendre les congés payés obligatoires à New York. Donc il va proposer un décret pour mettre ça en place.
c'est pas mal.
Bah merci quand même.
Enfin nous on les a ici, on se rend
compte. Bah ouais, nous on se rend pas compte. Non mais je tiens à le signaler
de
comme. Ouais, comme. Enfin voilà. Alors, personne fait ça. Il n'y a pas de loi fédérale hein, sur cette affaire. Il y aurait donc 500 000 salariés à New York qui n'ont pas de congés payés parce que, alors évidemment, il y a quelques fonctionnaires qui ont ça hein, aux États-Unis.
Oui, il y a des entreprises qui en donnent quand même.
Et bien sûr.
C'est du coup au libre choix du patron.
C'est ça, mais c'est tout au libre choix aux États-Unis d'Amérique. Il faut se souvenir de ça quand même. Hein, voilà. Et donc, ils visent en particulier un secteur d'activité très précis à New York, c'est l'hôtellerie et la restauration. Ouais. 200 000 personnes, souvent de l'emploi précaire, souvent les gens font plusieurs boulots dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, mettre du congé payé obligatoire, ça pourrait changer la donne.
La qualité de vie de ces gens.
Et la qualité de vie. L'idée, ça serait de proposer 10 jours de congés payés par an. Pas non plus bézef, hein, comme on dit, mais enfin, c'est quand même un bon petit début. Et alors, ce qui est, moi, je trouve absolument dingue, c'est que ça risque de passer ce truc. Parce qu'a priori, oui. Il est entouré par une équipe, des gens qui vont voter, des élus, qui ont dit qu'ils étaient favorables à l'idée. Alors évidemment, on peut se dire qu'il va y avoir forcément des tas de petites manières à des entreprises de pouvoir contourner cette chose-là, mais c'est quand même une bien bonne idée que voilà.
On va vous faire un petit agenda si jamais vous vous ennuyez, on va vous proposer quelques activités. Alors la première que je propose c'est samedi, on sera le 12 janvier, c'est à la salle des Rancis qui est 249 rue Vendôme dans le 3e. Il y a une assemblée pour discuter, une assemblée de quartier pour discuter de la gentrification de la Guillotière, ça s'appelle « La Guillotière n'est pas à vendre », à l'image de ce qui s'est passé dans les années 70 à la Croix-Rousse, où ça s'appelait « La Croix-Rousse n'est pas à vendre ». Donc voilà, 13h30 samedi. Il y a Mauvaise Mine, c'est un livre qui parle de la manière de combattre l'industrie minière en France et dans le monde. Ils sont les auteurs sont invités à la Griffe, rue Sébastien Griffe, donc métro Saxe Gambetta, samedi à 15h pour présenter leur livre et discuter de tout ça. L'Amphizède qui est 12 rue Baudin à Villeurbanne, qui a un immeuble réquisitionné, occupé depuis décembre 2017, qui loge pas mal de gens, notamment pas mal de gens qui bougent, qui viennent un peu d'ailleurs, ce que les médias appellent les migrants, et pas que. 250 personnes sont dans ce bâtiment. Ils sont menacés d'expulsion, donc il y a une mobilisation lundi matin. Le 14 janvier, on doit être lundi, oui, c'est à 9h devant le tribunal de Villeurbanne, mais il y a un départ à 8h devant, qui est fait devant l'Amphizède, en fait, 12 rue Baudin à Villeurbanne. Et si vous avez envie d'aller au cinéma, vous pouvez, et que vous êtes curieux d'aller voir un film qui parle un petit peu d'une histoire policière sur fond de racisme anti-kurde, vous pouvez aller voir le film qui s'appelle Qui a tué, je me rappelle plus de
Lady Winslet.
Lady Winslet, oui. Qui a tué Lady Winslet, donc film qui a moult personnalités, moult. Qui a été fait par plein de gens de différents pays.
C'est un financement CNC français, financement belge, avec des scénaristes allemands, des acteurs turcs-kurdes. Enfin,
Kurdes aussi, je pense.
C'est très marrant, ces génériques. Il faut toujours lire les génériques pour se rendre compte d'où vient l'argent et comment c'est financé. Ça veut dire aussi que c'est financé beaucoup à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent sur place et que c'est un vrai problème. En fait.
Voilà. Mais c'est un très beau film, très étrange. J'ai bien aimé.
J'ai beaucoup aimé la première partie où on sent à la fois la patte d'un Hercule Poirot presque finalement, avec une espèce de mystère, des personnages grande gueule qu'on pourrait croire caricatural, mais si vous le pensez comme ça, c'est parce que vous dénigrez les personnages, alors que moi j'ai finalement une certaine sympathie et une affection, même quand ils sont cons, faut le dire, pardon pour le mot, mais voilà. Mais la deuxième partie, la dernière partie, on va dire, voilà, l'histoire un peu fleur bleue qui me plaît moins, mais c'est vrai que.
C'est sur fond quand même de racisme anti-kurde, parce que ça se passe dans une petite île turque. Donc c'est aussi un film avec un fond politique intéressant.
Et moi j'avais un autre rendez-vous à dire, c'est que samedi à 16h à la mairie du 1er, il y a un moment autour des migrants qui est organisé. Donc c'est une association AEOL que je connais pas bien, je vous avoue, hein, qui vient de s'installer sur Lyon, qui organise cet après-midi autour d'une question sur les causes de l'exil des mineurs et des solutions pour un meilleur accueil. Un grand débat qui, à mon avis, il faut 4 jours pour même amorcer la moitié de la discussion. Mais c'est autour d'une projection d'un documentaire documentaire qui s'appelle Du piment dans les yeux ou La soif d'étudier, parcours d'un jeune africain, qui est un film de Yves Benita et Patrice Peugeot sur l'histoire de Mohamed né en Côte d'Ivoire et comment il se retrouve ici. C'est un chouette film et c'est aussi autour, le documentaire reprend une captation d'un spectacle de la compagnie Anteprima qui a travaillé sur ce personnage de Mohamed et sur sa propre vie. Donc c'est à la fois une rencontre entre le côté humanitaire et puis en même temps sur une partie plus artistique, et ça se passe donc samedi après-midi à partir de 16h à la mairie du 1er.
C'est la salle
La salle du conseil, c'est la mairie du 1er, il y a une salle hein, globalement, sinon c'est les toilettes.
D'accord. Il y a les bureaux quand même.
Ouais.
Voilà. Et ben, il est 20h05 à la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure de laisser la place aux bandes continues puisque l'émission suivante n'est pas apparue. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h, pour le prochain Canu Info du jeudi et demain, 19h, pour le Canu Info du vendredi. Vous avez compris.
Le principe.
Ouais, c'est tous les jours de la semaine et le week-end, on se repose. Donc voilà, passez une bonne soirée.
Et ben, passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon début de semaine. Tout ça jusqu'à jeudi prochain. Ciao, ciao.
Bye, bye. J'aime pas les MC qui confondent la rime et les pros. Je fais qu'aligner les...